Deutsche Welle, émission spéciale.
Vous écoutez bien la Deutsche Welle, nous sommes le jeudi 4 juin 2015. Aujourd'hui étant un jour férié en Allemagne, nous avons décidé d'en profiter pour vous proposer une émission spéciale sur les migrations clandestines vers l'Europe. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'émission. Nous évoquerons bien sûr les causes diverses de l'émigration massive de populations vers l'Europe, en nous penchant sur le cas de l'Érythrée, sur les politiques d'accueil pas toujours très chaleureuses mises en place par l'Union européenne vis-à-vis de ces migrants. Nous reviendrons aussi sur une tentative au Mali depuis 7 ans de gérer l'émigration depuis Bamako, et puis aussi sur les critiques, et elles sont nombreuses, des réponses apportées par les pays européens aux personnes qui traversent clandestinement la mer Méditerranée. Au micro, c'est Sandrine Blanchard. Bonjour.
Hi folks, I'm Nigerian, proud and outspoken. Kinda loud when I chat, but I'm honest and I'm open. Allergic to embassies, no I'm not joking. Cause we singled out as the ones who leave the law broken. These days I hate every second at the airport. Immigration giving us looks like it's their fault. For the drugs and the foreign and the crime. They don't care if I'm that rapper that they call Mode 9. To them, I'm just another green passport. Potential criminal, intelligence minimal. That's why they choose to treat me like a urinal. Piss on me just to catch their trips. In Italy, immigration almost made me flip. I told them off, hammer time, I'm too legit to quit. I'm not a crook. No. So why the hell you give me lip?
Un peu de vocabulaire pour commencer. Distinguons deux catégories de population, les migrants et les réfugiés. C'est une distinction juridique et politique un peu pour la forme, mais qui revêt en réalité une grande importance, car sur les embarcations qui font naufrage en Méditerranée, on trouve ces deux types de personnes qui fuient la plupart du temps des formes de violence politique, idéologique ou économique. Les réfugiés d'abord, ils relèvent du droit d'asile international encadré par la Convention internationale de 1951, signée par tous les États membres de l'Union européenne, qui se sont engagés à leur accorder l'asile dans un cadre défini par les Nations unies. Ce sont ceux qui sont chassés de leur pays par la guerre, des violences ou encore des persécutions. Et puis il y a les autres que nous appellerons migrants. Ils ne relèvent pas de persécutions de groupe, mais ils peuvent, à titre individuel, demander l'asile dans un pays étranger.
D'après le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, entre janvier et décembre 2014, les migrants en Méditerranée étaient pour la plupart originaires du Moyen-Orient et d'Afrique. D'abord des Syriens, avec 60 051 arrivants recensés, puis érythréens, ils étaient un peu plus de 34 500 à arriver en Europe. Ces deux nationalités, tout comme les Afghans, qui étaient plus de 10 000, ont droit à se voir octroyer l'asile selon les règles fixées par les Nations Unies. Les personnes en provenance d'Afrique subsaharienne, dénombrées à leur arrivée, après une traversée irrégulière, étaient plus de 20 000, essentiellement des Maliens, plus de 8 000, des Nigérians, des Gambiens, des Somaliens, sans oublier bien sûr plus de 5 000 Palestiniens.
Évidemment, ce sont des chiffres issus des arrivées enregistrées ou des rapatriements vers le pays d'origine, mais par définition, le nombre exact des départs de personnes en situation irrégulière est impossible à déterminer puisqu'elle se fait de façon clandestine. Et là, il est important de noter que la plupart des migrants dans le monde sont des déplacés internes ou des réfugiés qui partent au plus près dans les pays voisins et pas en Europe.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Toutefois, l'arrivée des beaux jours a vu le nombre d'arrivants augmenter sur les côtes européennes, car la Méditerranée est plus calme en cette période de l'année, ce qui facilite, entre guillemets, la traversée. Les pays européens du pourtour méditerranéen se plaignent, à l'instar de l'Italie ou de la Grèce. Chaque jour, des centaines de personnes échouent, par exemple, sur les rives des îles grecques. Alors les autorités d'Athènes réclament de l'aide et une plus juste répartition de l'effort. Mais pour l'instant, l'Europe fait plutôt la sourde oreille. Un reportage sur l'île de Kos, signé Thomas Jacobi.
Le Zodiac est visible désormais à l'œil nu. À son bord, une cinquantaine de personnes, dont plusieurs enfants. Dans quelques minutes, il touchera le sol européen, à l'île grecque de Kos, à quelques encablures de la Turquie. La police, des volontaires, des migrants arrivés la veille attendent les nouveaux venus des Syriens, Afghans, Irakiens, Congolais, qui ont fui la guerre et qui sont sur la route depuis plusieurs semaines. Samir a 20 ans. Il est syrien. Il a fui la guerre et le service militaire. Il ne voulait pas tirer sur les siens. Aujourd'hui, ses compagnons de voyage le considèrent comme leur sauveur.
Le passeur qui avait tenu la barre nous a lâchés, il est parti à la nage. Je l'avais observé pour voir comment faire et j'ai pu faire repartir le bateau à pleine vitesse vers la Grèce. Les gardes-côtes turcs nous ont attaqués deux fois pour nous forcer à retourner, mais nous leur avons échappé. Nous avons marché longtemps et nous sommes arrivés ici, dans cet enfer. Si vous êtes de la presse, ne soyez pas comme celle de chez nous, dites vraiment ce qui se passe.
La police mène tout le monde au camp, improvisé à l'hôtel Captain Elias. Une bâtisse délabrée saisie par une banque et cédée à la mairie il y a un mois. C'est là que les policiers vont prendre les passeports des migrants. Le poste où doivent être délivrés les laissez-passer est déjà totalement débordé avec des gens qui dorment dans la cour. Le chef de la police, Georges Yorgakakos, se dit à bout.
Voilà la frontière gréco-turque. Kos est à 3000 marins de la Turquie. Ici, c'est le passage le plus étroit. Nous, on est juste là. Tous ceux qui traversent viennent ici. Avec des zodiacs de 6 mètres de long qui prennent 40 à 50 personnes. Il en arrive pratiquement tous les jours.
Retour au Captain Elias, des matelas à même le sol, toilette bouchée, un seul tuyau d'arrosage pour se laver, une rangée de tentes dans le jardin avec des draps tendus ici et là pour donner l'illusion d'un peu d'intimité. Malgré tout, le maire refuse de parler de crise humanitaire.
Moi, tous les jours, les gens viennent se plaindre, que ce soit des riverains de l'hôtel où sont logés les migrants, des visiteurs ou encore des salariés de la mairie chargés de nettoyer. Les conditions de logement sont certes très difficiles, mais sans doute meilleures que ce qu'ils ont enduré jusqu'ici. Du moins, ils n'ont pas à craindre qu'une bombe tue toute leur famille.
Samir comprend que les Grecs râlent, mais il explique, il n'a pas le choix.
Je suis étudiant, j'ai tout ce qu'il faut pour être un homme, pour être quelqu'un de bien. Ma famille a fait de moi quelqu'un de bien. Mais cette guerre nous oblige à faire des choses que vous ne pouvez même pas imaginer.
S'il n'y a pas de crise humanitaire, ce que démentent les médecins et bénévoles de Médecins sans frontières, qui ont installé un dispensaire de fortune dans la cour du commissariat, il y a une crise économique dans le pays et la Grèce n'a pas grand-chose à offrir à ses migrants. De tous ces hommes, femmes et enfants, aucun ni aucune compte rester en Grèce et leur route est encore longue. Après la Grèce, il leur faudra traverser la Macédoine, la Serbie et la Hongrie pour arriver en Autriche avant que les choses ne deviennent un peu plus faciles. Une route désormais semée d'embûches avec à chaque étape des passeurs et des mafieux qui raquettent et tendent des pièges sans que personne intervienne. C'est pourquoi Keti Kehayoglu, du Haut Commissariat aux réfugiés, a plaidé pour l'ouverture de routes légales.
Il existe une exploitation sauvage des migrants, des enlèvements même. C'est pourquoi nous demandons en tant que UNHCR un déplacement légal de ces réfugiés de Grèce et d'Italie vers des pays européens. Une sorte de réinstallation. C'est le meilleur moyen pour frapper les réseaux de passeurs.
33 000 migrants sont arrivés en Grèce depuis janvier dernier. 3 500 sont noyés, des chiffres qui ne cessent d'augmenter avec la saison estivale. Thomas Jacobi de Kos pour la Deutsche Welle.
Nous reviendrons tout à l'heure sur les réponses européennes à ces arrivées irrégulières, mais revenons-en d'abord à ce qui explique les départs. L'un des pays au plus fort taux d'émigration, c'est l'Érythrée. Avec une population de seulement 6,5 millions d'habitants, l'Érythrée perd chaque année des milliers de ses ressortissants qui fuient. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 338 000 Érythréens ont quitté leur pays l'année dernière. Parmi eux, la plupart partent se réfugier au Soudan ou dans les pays de la sous-région. Mais il y a des hommes et aussi de nombreuses femmes et leurs enfants qui tentent le voyage périlleux à travers le désert, puis sur la mer Méditerranée. Stéphanie Duckstein et Eric Topona.
L'une des causes principales qui pousse les Érythréens à partir massivement, c'est le manque de perspective. Abba Moussi Zirai, prêtre catholique, le sait bien. Cet Érythréen aussi a fui son pays natal pour l'Italie il y a une vingtaine d'années.
La plupart d'entre eux, autour de 75% de ces réfugiés, sont très jeunes. Ils seraient en âge d'aller à l'université ou de suivre une formation.
Mais au-delà des craintes liées à l'avenir, l'oppression omniprésente du régime en place à Asmara et donc la terreur au quotidien que la population érythréenne subit, explique l'exode massif que vit le pays. Amnesty International décrit l'Érythrée comme l'un des régimes les plus répressifs au monde. C'est aussi l'un des États les plus fermés du continent. Le président Isaias Afewerki est au pouvoir depuis 22 ans et il cumule les fonctions de chef d'État, chef du gouvernement, commandant en chef des forces armées, président du Parlement et chef du seul parti autorisé, le PFDJ. Clara Braungart est chercheure à Amnesty International.
C'est un répressive État.
C'est un État répressif. Depuis 1993, l'Érythrée est indépendante, mais elle n'a connu qu'un seul président, un seul parti. L'opposition est interdite et dans ce contexte, aucune liberté d'expression n'est possible.
Amnesty International a beaucoup de berichts darüber vor, dass Menschen gefoltert wurden.
Nous avons reçu de nombreux rapports stipulant que les gens ont été torturés. Ils ont été parfois menottés, les mains dans le dos, suspendus par les pieds et les mains ou exposés à une forte chaleur. On les bat, il y a des viols.
Dass man ganz starker Hitze ausgeliefert wird. Es gibt Schläge in den Haftanstalten, es gibt Berichte von Vergewaltigung.
Pour ces raisons, beaucoup n'osent même pas donner un avis d'opposition. Tous les hommes et les femmes vont au service militaire dès 18 ans pour un an au moins, mais qui peut être prolongé arbitrairement. Il est demandé aux étudiants de compléter leur dernière année à l'école dans un camp militaire. Les gens sont dépourvus de toute perspective politique ou économique. Même les joueurs de l'équipe nationale de football ont demandé l'asile en Ouganda lors d'une rencontre internationale à guichet fermé. Le chercheur érythréen Mekonnen Mesgena confirme qu'il règne un climat de peur dans son pays natal.
Sehr viele Menschen haben das Gefühl, sie befinden sich in einem permanenten
Beaucoup de gens ont l'impression qu'ils sont dans une situation de conflit permanent. C'est d'ailleurs la raison qu'on avance pour interdire le multipartisme ou pour expliquer que la Constitution n'ait pas été votée. L'argument du gouvernement, c'est que le pays n'est pas en paix.
L'ONU a, depuis 2012, un rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Érythrée. Sheila Kitarout a depuis longtemps lancé une demande d'autorisation pour voyager dans le territoire érythréen. Jusqu'ici, sans succès.
L'immigration est un système de pauvreté que Babylone elle-même a provoqué. Les bas-fonds de la société se font encore plus remarquer. Ils disent qu'il n'y a pas de job dans la cité et ils veulent plus commettre des atrocités. La jeunesse est vraiment révoltée et on a raison même s'il y a des illettrés parmi nous. Créer des emplois si vous voulez l'arrêter.
En Afrique de l'Ouest, le Sénégal est aussi un grand pays de départ. Rien que dans les trois premiers mois de cette année, 1200 Sénégalais seraient arrivés sur les côtes italiennes, des chiffres communiqués par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Mais quel est donc le profil des candidats à l'émigration et comment se fait-il qu'ils soient prêts à mettre leur vie en danger? Dirk Kupp a posé la question à Njolint Robertsen, chef de bureau de l'OIM au Sénégal.
C'est beaucoup de jeunes hommes qui viennent pour beaucoup soit des zones rurales ou des banlieues, villes où il y a très peu d'opportunités économiques. Ils ont quitté l'école très tôt, donc un manque aussi d'éducation formelle. Et donc ils ont ce souhait de rechercher d'autres opportunités économiques, de trouver du travail pour soutenir leur famille. Et ça, c'est vrai tant pour les départs vers l'Europe, mais aussi pour les départs qui se font à l'intérieur même du continent africain et qui sont des migrations en fait beaucoup plus nombreuses.
Donc c'est surtout le manque de perspective économique.
Le manque de perspective économique et puis par rapport à l'Europe, il y a aussi un manque d'informations de beaucoup de jeunes qui partent et même les moins jeunes sur les conséquences d'un voyage en situation irrégulière et même les conséquences et les dangers et puis même les conséquences une fois qu'ils arrivent effectivement en Italie, en Europe, une vie en situation irrégulière, parce que l'idée c'est vraiment je vais arriver, je vais trouver du travail, je vais renvoyer beaucoup d'argent à la famille, alors que très souvent ce qu'on voit c'est que c'est pas du tout le cas, la vie vie qu'ils ont une fois arrivés en Europe est très très difficile.
Est-ce qu'il y a aussi une question de prestige? Ah oui, moi je suis partie en Europe et n'importe si on a réussi ou pas, les gens qui sont restés derrière savent seulement « Ah, celui-là, il est en Europe, il a réussi ».
Oui, ici au Sénégal, c'est vraiment le cas. Et puis très souvent, ça c'est une image que les migrants donnent. Ça perpétue un petit peu le mythe, comme vous dites. Ouais.
L'Union européenne est en train de tenter de s'accorder sur de nouvelles réponses aux arrivées de migrants, notamment pour éviter ces naufrages meurtriers en Méditerranée. Ces derniers mois, des milliers de personnes sont mortes en mer en essayant de rallier les côtes européennes. D'où le nouveau plan d'action de l'UE, qui ne fait toujours pas consensus entre les 28 États membres. Le point avec Laure Etienne.
Selon les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations, ce sont près de 1800 migrants qui ont trouvé la mort entre le début de l'année et la mi-mai. Et les navires de guerre allemands ont encore repêché plus de 700 migrants la semaine dernière. Car malgré les risques, les candidats affluent toujours, notamment en Libye, où selon les estimations de la Commission européenne, près d'un demi-million de réfugiés originaires d'Afrique et de Syrie attendent actuellement de pouvoir traverser la mer Méditerranée. La majeure partie du plan d'action présenté par l'Union européenne prévoit d'agir en priorité contre les passeurs, qui sont bien souvent à l'origine des naufrages qui coûtent la vie à tant de migrants. Il s'agit avant tout de déployer des moyens de reconnaissance et d'action de type militaire. Les bateaux de passeurs seront tout d'abord repérés, puis interceptés en eau internationale et détruits. Une autre phase de ce plan prévoit aussi d'agir dans les eaux libyennes, ainsi qu'au sol, dans les ports notamment. Mais pour cela, il faudrait que l'ONU accorde les mandats nécessaires aux forces européennes. En plus de ce plan d'action en amont, c'est-à-dire avant que les migrants n'arrivent sur le sol européen, la Commission européenne a aussi proposé un plan d'action pour la prise en charge des demandeurs d'asile. Ce plan devrait en partie modifier les accords de Dublin en imposant une clé de répartition des demandeurs d'asile entre les États membres. Ska Keller, une eurodéputée verte, nous explique le but de cette proposition de la Commission européenne. La clé de répartition est un premier pas, mais au-delà, nous avons besoin d'une réforme profonde de la réglementation de Dublin. Celle-ci oblige en effet le réfugié à demander l'asile dans le pays par lequel il est entré sur le territoire européen. Cela ne fonctionne pas, cela fait longtemps que nous le savons. La responsabilité est trop grande pour les États du Sud où la grande majorité des migrants arrivent. D'autres États membres s'en tirent mieux de par leur position géographique. C'est sur ce point qu'il faut agir. Nous avons besoin de plus de solidarité entre les États membres, mais aussi envers les réfugiés. Mais c'est justement là que le bât blesse. La clé devrait être calculée sur 4 critères. Le PIB, la population, le taux de chômage et le nombre de demandes d'asile déjà enregistrées par le pays. Or, de nombreux pays ont d'ores et déjà exprimé leur opposition à cette proposition. Martin Schulz, le chef du Parlement européen, n'a d'ailleurs pas manqué de le faire remarquer.
Non, ce n'est ni trop peu ni trop tard. Cela arrive à point nommé. C'est peut-être à chaque fois quelque chose de plus ambitieux que ce qui est possible, mais l'avantage de cette initiative, c'est que tout le monde peut maintenant voir qui freine le progrès dans la gestion de nos problèmes d'immigration. Ce n'est pas l'Union européenne, mais certains États membres de l'Union européenne au nom d'intérêts nationaux très particuliers.
Ainsi, la Grande-Bretagne, l'Irlande et le Danemark ont déjà indiqué qu'ils ne souhaitaient pas prendre part au projet. Les pays baltes et la Pologne s'y opposent eux aussi. Même l'Italie, qui a recueilli plus de 40 000 demandeurs d'asile depuis le début de l'année, a exprimé certaines réserves. Pour elle, il faudrait que la mesure s'applique aussi aux demandeurs d'asile qui sont d'ores et déjà dans le pays. Seule l'Allemagne semble favorable à la proposition. Si la mesure était adoptée, elle recevrait près de 9 000 réfugiés, ce qui équivaudrait à 22% du total des demandeurs d'asile. Le gouvernement allemand a déjà annoncé la création de 2000 places d'accueil supplémentaires pour les réfugiés pour faire face à l'augmentation du nombre de demandeurs d'asile.
Écrivez-nous à français@dw.de.
Les accords de Dublin stipulent que les pays d'arrivée en Europe sont obligés d'ouvrir un dossier lorsqu'un étranger souhaite demander l'asile. Ils sont tenus de le traiter. Dans la réalité, la durée de traitement du dossier est souvent très longue. En Allemagne, environ 200 000 demandes d'asile ont été déposées en 2014. Le taux d'acceptation avoisine les 42%. Mais de nombreuses ONG dénoncent la politique européenne qui, dans les faits, se fixe pour objectif d'éloigner les arrivants, soit par les voies diplomatiques, en négociant avec les États de départ ou de transit, comme la Libye, soit en renforçant à tout craint la surveillance physique des frontières et en militarisant la Méditerranée. Avant de revenir sur ce volet sécuritaire très controversé, l'UE envisage donc d'ouvrir un centre pour réfugiés au Niger d'ici à la fin de cette année. Ce centre serait cofinancé par l'Union européenne.
Pour l'heure, les modalités de fonctionnement n'ont pas encore été vraiment précisées, mais l'UE pourrait s'inspirer d'un modèle testé à Bamako, au Mali. Jens Borchers et Carole Assignon.
Il y a 7 ans, un bureau bien équipé ouvrait ses portes à Bamako. Des panneaux annoncent à l'entrée. Ici se trouve le CIGEM, le Centre d'information et de gestion des migrations. C'est la Commission européenne qui l'a financé. Mais 7 ans plus tard, l'avenir du CIGEM est incertain. L'Union européenne a cessé de verser l'argent qui lui permettait de fonctionner. Le centre n'est jamais parvenu à s'établir réellement dans le quotidien des Maliens. À Bamako, beaucoup de personnes aimeraient quitter le Mali. Beaucoup sont aussi déjà revenus après avoir échoué à gagner l'Europe. Les candidats à l'immigration sont sceptiques vis-à-vis du CIGEM. Ils ont l'impression que le centre est destiné à les dissuader de partir. Ousmane Diarra fait partie de ceux qui ont tenté en vain leur chance et ont dû rentrer au Mali. À son retour, il a fondé une petite organisation à destination de ceux qui se retrouvent dans la même situation que lui. Ousmane Diarra confirme que les candidats à l'immigration sont très méfiants vis-à-vis de structures mises en place par l'Union européenne ou les États du Maghreb.
Les pays méditerranéens sont devenus les gendarmes. L'Union européenne a demandé à les pays africains d'installer, c'est-à-dire d'ouvrir les centres d'observation au long des frontières. Et maintenant, s'il y a le sixième à Bamako, peut-être que ça peut être le centre qui peut consolider le Frontex.
Au Mali, c'est le manque de perspectives économiques concernant la formation ou le marché de l'emploi qui pousse les gens à partir. Et quand ils entreprennent le voyage périlleux vers l'Europe, ils ne souhaitent pas croiser de douaniers qui connaîtraient déjà leur identité au Niger, en Algérie ou en Tunisie par exemple. Certains migrants craignent d'être identifiables grâce à la tenue de fichiers en Afrique. Et cette perte d'anonymat est synonyme selon eux de risque d'arrestation, d'expulsion avant d'arriver à bon port. La mise en place du CIGEM n'a toutefois pas révolutionné la politique migratoire depuis Bamako, même si le porte-parole défend le bilan du centre, Andrzej Bieliszki.
Plusieurs milliers de migrants en ont bénéficié. Certains petits projets ont pu voir le jour grâce au financement du CIGEM. Il y a eu également une implication de la diaspora en Europe en faveur des candidats à la migration.
Une évaluation qui n'a encore jamais eu lieu en 7 ans d'existence du CIGEM. Difficile dans ces conditions que le bilan du centre bamakois puisse réellement servir de modèle au centre d'accueil prévu au Niger. D'autant que cette structure, toujours en discussion, aurait également une mission de conseil des migrants sur leur chance de voir leur demande d'asile aboutir. Une vision très eurocentrée de la problématique. Car en réalité, beaucoup de migrants ne s'intéressent que peu aux arcanes de l'administration. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est partir pour trouver enfin du travail et pouvoir nourrir leur famille. Ou comme le résume Ousmane Diarra.
C'est l'Europe ou la mort.
Nous évoquions tout à l'heure la militarisation des eaux méditerranéennes. Les contrôles migratoires, s'ils sont contestés par de nombreuses associations, rapportent aussi de l'argent. Des industries d'armement ou des entreprises aéronautiques européennes se sont en effet constituées en lobby et elles ont tout intérêt à ce que les pouvoirs publics, que ce soit la Commission européenne ou les États membres, renforcent le caractère répressif de la politique d'immigration pour revendre leurs appareils ou leurs technologies de pointe comme des drones ou des radars. Par exemple. Au moment de l'opération de sauvetage en mer Mare Nostrum menée par l'armée italienne jusqu'en novembre dernier, des bâtiments militaires ont ainsi été remis en service pour l'occasion, ce qui fait tourner l'industrie. L'objectif affiché par Bruxelles est en tout cas bien de dissuader les migrations, plus que de résoudre les problèmes à la base dans les pays de départ. L'agence Frontex est chargée de surveiller les frontières, de repérer les routes pour les bloquer. L'Union européenne tente ainsi de filtrer les arrivées inopportunes sur son territoire. Un des objectifs est aussi d'arrêter les passeurs qui se livrent au trafic d'êtres humains et de détruire leur embarcation. Une réponse inutile et inappropriée de l'avis de Mamadou Diouf. Il est à la fois membre du réseau pour la migration et le développement au Sénégal et du réseau Migre Europe.
Imaginez-vous qu'on dégage autant d'argent chaque jour, 1 million d'euros à dépenser au moins par le Frontex pour essayer de voir comment faire un travail de policier sur la mer Méditerranée. Nous pensons qu'il y a autre chose à faire que de ça. Pourquoi le Frontex et le budget qui est investi au Frontex ne peuvent pas être investis dans le programme de développement au niveau local, dans la coopération internationale et inter-État, pour que cela aide à fixer des jeunes dans le monde rural, dans des zones de pêche, dans les zones agricoles, dans le pastoralisme et à différents autres secteurs, à partir de quoi il est possible, bien sûr, de faire des projets qui peuvent permettre de retenir les jeunes. Mais faudrait-il aussi que les États fassent l'effort d'interpeller, de collaborer, de dialoguer et d'aller chercher les acteurs qui travaillent sur la question pour dire « mais qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble ?»
Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait jusqu'à présent? Est-ce que finalement, d'une part comme de l'autre de la Méditerranée, les États ne trouvent pas finalement leur compte dans cette situation-là, avec des pays de départ qui sont peut-être contents de voir partir des gens qui seraient au chômage et puis qui, quand ils feront partie de la diaspora, vont envoyer de l'argent pour soutenir leur famille?
Mais c'est ça qui dénote en vérité encore une fois de notre vie. La position des États qui consiste à dire de laisser pourrir la situation, il y a une sorte de mépris total vis-à-vis de ces jeunes migrants, vis-à-vis des politiques qu'il fallait élaborer. Et si l'État des États était suffisamment sérieux et assez conscient de ce qui se passe, sans doute dans l'immédiat, ben, comme l'Union européenne a fait en convoquant un sommet, mais ne pas s'arrêter là, mais aussi l'Union africaine, pourquoi pas, n'aurait pas dû convoquer un sommet. Et c'est le résultat de ces deux sommets extraordinaires qu'on aurait dû dire maintenant, pour toute la mer Méditerranéenne, convoquons une assise immédiatement qui regroupe les acteurs étatiques des deux pays et les acteurs universitaires des deux pays pour voir dans plus ou moins long terme qu'est-ce qu'il faudrait faire. Quels sont les acteurs autour de ces questions-là et comment tout de suite les écouter, les entendre, leur parler, et pour que chacun joue un rôle dans la dynamique qui aurait dû permettre d'arrêter l'escalade.
Ça, ce sont éventuellement des solutions à moyen ou long terme qui pourraient émerger d'une telle rencontre, d'un tel sommet. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a quand même des milliers, des dizaines de milliers de gens qui prennent effectivement les bateaux, qui effectivement font naufrage. Quelle réponse peut-on apporter autre que celle des opérations de sauvetage?
Dans l'immédiat, les passeurs qui sont installés dans différents pays autour de la Méditerranée, mais en vérité, la police de la, du Frontex et des pays de l'Union européenne savent où trouver ces passeurs. Est-ce qu'on a besoin d'attendre que ces passeurs embarquent des jeunes innocents pour aller faire de la guerre dans la mer Méditerranée? Et nous pensons que non. Il faut immédiatement essayer de voir au niveau des pays de départ quels sont les points à partir d'où les passeurs exercent leur métier. Il faut les arrêter sans doute à partir de ce moment-là. Mais ce travail aussi ne peut pas se faire sans une collaboration certaine avec les OSC, les ONG qui travaillent sur cette question-là. Et c'est là qu'il est issu maintenant de voir le dialogue possible dans l'immédiat entre les acteurs étatiques et les acteurs de la société civile.
C'était Mamadou Diouf du Réseau pour la Migration et le Développement qui fait aussi partie de l'action Frontexit contre les opérations de la police des frontières européennes en Méditerranée. Signalons enfin, pour finir, qu'en 2001, l'Europe s'est dotée d'une directive dite de protection temporaire. Elle prévoit la mise en place d'un dispositif exceptionnel en cas d'afflux massif de migrants sur son territoire. Cet instrument permet aux États membres de se répartir les ressortissants étrangers qui arriveraient massivement de façon équilibrée entre les États pour leur assurer une protection immédiate pendant 1 à 3 ans. Mais cette procédure n'a jamais été activée. C'est la fin de cette émission spéciale. Merci à vous de l'avoir suivie et à tous ceux qui y ont participé. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet dw.de/français. Bonne fin de journée et à très bientôt.
Tu savais d'où je venais, tu ne me parlerais pas pour rien. Tu déposerais ton képi, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à après-demain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins. Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. Mais tu es un flic, hein. Christ, représentant de la force publique. Tu savais d'où je venais, tu me demanderais si je vais bien. Tu m'offrirais à déjeuner, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins.
Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un.
Mais tu es un flic. Affolé de bandits, salaud vendu, de représentant de la force publique. Tu t'es né où je suis né, tu te demandes. demanderais si tout va bien, autant le temps colonisé, à présent traité comme un chien. Tu continues à me voler mon peuple et mon continent, tu distribues à la volée les pognons à mes dirigeants. Tu sponsorises les dictateurs, tu vides mon sol de ses richesses pour quelques gisements prometteurs, les peuples entiers dans la détresse. Et toi tu es flic,